C'est un enfant mal éduqué, c'est tout.
Mais il est stupide, il comprend pas, faut toujours lui répéter la même chose.
C'est un feignant, il finit jamais ce qu'il a commencé, il est complètement désorganisé.
Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, je reçois Catherine Langlais.
Bonjour Mélodie. Alors, qui je suis? Je suis simplement une femme mariée avec deux enfants, ingénieure dans un grand groupe automobile pour lequel je participe aux divers événements sur la diversité, ce qui m'a sûrement mis à l'honneur pour être une ambassadrice de la RSE avec 19 autres de mes collègues de Renault Group. Je suis marraine également dans l'association partenaire de Renault, l'association Elle Bouge. C'est pour motiver la diversité et des jeunes filles à rentrer dans le monde professionnel, technique et informatique. Et je suis aussi donc active du groupe Affinitaire Handicap. Et depuis qu'on parle des aidants, je me reconnais aussi en tant qu'aidante parce que j'ai conscience d'être une vraie chef de projet la vie de ma fille en situation de handicap. Cela m'a forcément amenée à un moment donné à me poser des questions et je me suis engagée dans le bénévolat pour l'association Hyper Super TDAH France sur le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et ça me permet d'aider les autres à éviter tous les écueils du parcours du combattant pour le diagnostic, les prises en charge thérapeutiques, les aides scolaires, mais aussi professionnelles, jusqu'à une reconnaissance parfois nécessaire de l'handicap.
Si je te dis atypique du cerveau, qu'est-ce que ça évoque?
Pour moi, c'est une manière différente de penser, de voir les choses de la vie et d'agir aussi. C'est une diversité parmi tant d'autres, mais celle-ci, effectivement, elle est invisible, car le fonctionnement cognitif ne se voit pas. Il s'observe, souvent vécu par un décalage ressenti vis-à-vis des autres. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, c'est une particularité qui apporte sa pierre à l'édifice dans notre société. Je dirais que c'est une richesse tout de même pour quiconque a une écoute active et crée un environnement inclusif. Ça permet d'élargir le champ des possibles, d'avoir une autre vision du monde. Et les secteurs de l'innovation sont friands de ces atypiques du cerveau, parce qu'ils sont très créatifs.
Je suis ravie que tu aies accepté d'être à mon micro pour parler d'un sujet qui tient vraiment à cœur et sur lequel tu es très engagée, le TDAH ou le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Est-ce que déjà tu peux nous dire ce que c'est exactement?
C'est moi qui te remercie de m'inviter et de me donner l'opportunité de parler du TDAH, qu'on va nommer avec les sigles parce que ça va être plus court. C'est un trouble du neurodéveloppement. Il se présente sous trois formes. Il y a l'inattentif, il y a l'hyperactif impulsif et la forme mixte. Donc l'inattentif, comme son nom l'indique, ce sont des symptômes d'inattention qui sont prédominants. On les perçoit comme des personnes de pieds au la lune, des rêveurs, des distraits. Ils sont souvent dans leur bulle, ils perdent leurs affaires, ils s'oublient, ils oublient plein de choses. Bon, c'est finalement les plus difficiles à repérer parce qu'ils ne dérangent pas. À part quand ils perdent beaucoup leurs affaires, mais en fait, ça les dérange plus eux ou leurs parents quand ils sont enfants que autrui. Les hyperactifs impulsifs, là, ce sont des symptômes d'hyperactivité physique, mais impulsivité qui sont prédominants, donc c'est ça qui va être plus visible. Ils ne tiennent pas en place, ils n'attendent pas leur tour, ils bousculent, ils coupent la parole, parlent sans filtre, donc ils disent des choses qui devraient rester dans leur tête. Eux, ils dérangent, donc ils sont facilement repérables et c'est souvent cela qu'on qualifie de mal élevé. On entend aussi TDA. Pour ceux qui ne pensent pas avoir d'hyperactivité physique, mais le trouble n'existe pas sur le H de l'hyperactivité, car même si on ne ressent pas l'hyperactivité physique, elle peut se retrouver dans sa tête. Et ça, c'est un autre problème de l'invisibilité de l'hyperactivité. Et la forme mixte, c'est quand on a tous ces critères d'inattention, d'hyperactivité, d'impulsivité, cette combinaison où l'inattention sévère va être un facteur aggravant parce que ça va fatiguer, ça va augmenter la fatigue et ça va augmenter finalement l'hyperactivité et une forme d'impulsivité de répondre du tac au tac. Ça entraîne finalement des comportements inadaptés et souvent punitifs qui mettent à mal l'estime de soi de ce trouble-là. C'était pourtant un point essentiel que les symptômes doivent entraîner vraiment un retentissement dans son quotidien. C'est-à-dire que sur toutes ces formes de TDAH, il doit être présent depuis la petite enfance et les symptômes sont au moins dans deux sphères de vie différentes, c'est-à-dire dans la sphère familiale, scolaire ou professionnelle, ou périscolaire ou dans les loisirs. Et c'est pour ça que c'est important de faire un diagnostic différentiel.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on entend par là? Parce que ce n'est pas forcément évident.
Oui, mais alors, c'est l'importance de faire la différence entre plusieurs diagnostics et c'est le repérage pour élaborer la liste des problèmes possibles pouvant être à l'origine des signes et symptômes chez la personne. On peut savoir que des problèmes de vue, d'audition, d'alimentation, des troubles du sommeil ou même des troubles d'apprentissage, des dyslexiques, dysgraphiques, peuvent entraîner exactement les mêmes symptômes. Un trouble anxieux, de la dépression, un trouble du spectre autistique, ça va générer des symptômes équivalents. Et donc, il est important de faire toute la panoplie des problèmes pour que le spécialiste puisse vraiment identifier que la personne est atteinte d'un trouble déficitaire de l'attention.
Quel conseil tu pourrais donner pour les parents qui bien souvent se trouvent un peu démunis?
Déjà, quand on sait qu'on a un enfant qui a un problème, il faut que le parent se fasse confiance. Je pense que c'est la première chose, c'est écouter sa voix intérieure qui murmure « mon enfant souffre » et « ce n'est pas normal ». Trouver un diagnostic, c'est aussi se déculpabiliser pour dire « non, ce n'est pas une étiquette ». C'est une reconnaissance qui va permettre d'aider dans son quotidien et justement de trouver des outils adaptés à ses besoins. Donc il ne faut pas tout de suite mettre une étiquette de TDAH à tous les enfants parce qu'ils ont un comportement agité ou ils sont rêveurs. Il faut vraiment avoir le diagnostic que je vous disais tout à l'heure en amont, faire le diagnostic différentiel. Ensuite, pour trouver le bon spécialiste, je vous renverrai vers les bénévoles de l'association. C'est important d'avoir le bon spécialiste. Quand l'enfant est diagnostiqué, ce qu'il faut retenir, ce ne sont pas les symptômes du TDAH qui sont la problématique, mais bien sûr la gêne qui vont entraîner dans l'enfant dans son quotidien. Je parlais tout à l'heure de tout ce qui était punitif pour eux parce que inattentif, agité, et donc l'estime de soi chute. Donc il y a le renforcement positif. Donc ça, c'est essentiel de toujours travailler sur le renforcement positif. Ensuite, il va falloir que les symptômes qui ont un retentissement sur son comportement, ses performances, voilà, et il faut que l'entourage, enseignants, parents, camarades, puissent être au courant pour composer avec. Et c'est justement pour éviter ce qui développe une faible estime de lui, des critiques et des échecs face à son comportement. Et il faut savoir que cet enfant, il fait des efforts. Il fait des efforts tous les jours, sauf que ce n'est pas perçu par son entourage. Et à force de faire ses efforts, et s'il n'est pas récompensé, il risque de se décourager et de ne plus vouloir en faire, voire développer des troubles du comportement derrière de l'opposition. Donc c'est essentiel d'avoir la compréhension du TDAH de chaque enfant qui est différent, et en parler et de proposer des stratégies spécifiques pour vraiment le cibler sur l'individu. Alors, il faut être réaliste, hein. Il y aura des hauts et des bas, mais il faut toujours se faire confiance, il faut tenir bon. Et la priorité, préserver le lien parent-enfant. Il faut éviter de se substituer à tous les autres rôles, de prof, de copain, d'entraîneur. C'est essentiel que la relation soit toujours préservée. Dans le pratico-pratique des conseils, je dirais qu'il faut aller voir le site de l'association Hyper Super TDAH France. Il est très bien fait, il y a une richesse de ressources, de conseils. Il faut vraiment l'utiliser et prendre conscience aussi que les enseignants ne peuvent pas avoir une fiche de 30 conseils pour chaque élève, parce que ça, c'est pas possible. Il y a 4-6% de collègues qui sont allergiques qui sont atteints de TDAH, mais comme il n'y a pas que le TDAH dans les trois, ils ont au moins 3-4 élèves dans leur classe avec des adaptations. Donc il faut penser aussi à des adaptations communes et qui va fonctionner pour tout le monde. La difficulté, c'est que chaque trouble pour chaque enfant et chaque même adulte est unique et qu'il faut mettre des adaptations prioritaires par rapport à leurs besoins. Les ressources sur le site sont assez riches.
Oui, alors on a souvent l'impression que le sujet concerne surtout les enfants, mais qu'est-ce qui se passe quand on devient adulte? Est-ce que ça évolue?
Le TDAH concerne entre 3 à 5% des enfants d'âge scolaire et 30% des adultes. Ça veut dire que le TDAH ne disparaît pas à l'âge adulte, mais il évolue et des stratégies s'installent, ce qui fait qu'on est moins en situation d'handicap. On a trouvé des adaptations pour compenser, ainsi réduire les impacts et n'en laisser que les atouts. Cependant, le TDAH réagit aux facteurs environnementaux et la survenue des symptômes peuvent réapparaître ou apparaître plus tard. Souvent, des adultes se retrouvent diagnostiqués alors que pendant toute leur enfance, ils n'ont pas forcément eu de diagnostic. Et souvent, ce qui fait que les adultes se découvrent tardivement, c'est une période charnière dans leur vie, que cette sensation d'être tout le temps en décalage par rapport aux autres pèse énormément. Donc l'urgence, c'est bien de mieux se connaître et d'agir et de mettre en place des modes de protection. C'est ça malheureusement que beaucoup qui ne le savent pas, il y en a qui vont vivre toute leur vie sans le savoir et ils vont être traités pour d'autres troubles de santé mentale. C'est vraiment le décalage ressenti quotidiennement et l'impact sur l'estime de soi, c'est ça qui va entraîner la recherche du diagnostic. De détecter de manière précoce et de faire des prises en charge, c'est forcément trouver des adaptations qui vont créer et mettre en avant la richesse de cette diversité cognitive pour l'inclusion dans la société. Ça, c'est super important.
Et au travail, quels sont les points de vigilance ?
C'est compliqué comme question parce que, comme je disais, il existe plusieurs profils d'adultes TDAH et il serait impossible d'en parler en quelques minutes. Les qualités qu'on peut leur associer, créatif, intuitif, curieux, rêveur, imaginatif, spontané, empathique, enthousiaste, surtout l'hyperactif, hein, on peut parler de dynamique, extraverti, énergétique, enfin, c'est vraiment des personnes audacieuses qui ont cette capacité à foncer parce qu'ils ont cette compétence d'hyperfocalisation et donc une performance assez importante quand arrive la date butoir. Ils pensent vraiment en dehors du cadre, out of the box, avec une faculté d'improviser. Ça, c'est vraiment ce qui est très positif. Les points de vigilance, c'est que pour s'épanouir, ils ont besoin d'avoir confiance. Et ça, c'est essentiel pour maintenir leur dynamisme et leur enthousiasme. C'est des gens qui sont très loyaux, pour le sens de la justice, et en conséquence, bah, ils ont besoin d'avoir du sens dans leur mission, ça va leur libérer leurs freins et ça va les recharger en énergie. Leur fonctionnement manque d'organisation, ça c'est indéniable. Quand ils s'ennuient sur une tâche répétitive, ça se disperse, il faut vraiment qu'il y ait un attrait, parce que sinon, c'est clair, si ça ne leur plaît pas, ça ne fonctionne pas. Ils ont une curiosité qui augmente leur distractibilité, ils vont sauter d'une tâche à une autre, d'un mail à une autre, d'une conversation à une autre, bref, ils vont procrastiner, qui vont les faire penser à des personnes qui ne sont pas fiables, et même parfois paresseuses, alors qu'en fait, ils n'arrêtent pas. Ils ne délivrent pas l'énergie dans les bons sujets au bon moment. Ils se font trop rapidement happer par des sollicitations extérieures ou des challenges plus motivants et finalement ils perdent leur priorité professionnelle. Il faut un management bienveillant. Ça, c'est assez indispensable pour les encadrer.
C'est ça, il y a la notion de confiance en soi. Justement, ce management bienveillant qui va aussi faire qu'ils soient en confiance et plus performants, plus performantes parce que dans un bon environnement, c'est ça ?
Exactement, vraiment être rassuré, de confirmer qu'ils sont bien dans la bonne trajectoire et qu'ils ne s'éparpillent pas ou partent en leur sujet parce que justement c'est un peu le risque, ça c'est essentiel. Donc il y a un rythme à trouver, chaque individu étant différent, il faut s'adapter, mais ça c'est le rôle du management, s'adapter à chaque individu qui compose son équipe. Et la relation de confiance est vraiment, vraiment importante et de toute manière elle sera forcément récompensée par cette relation de confiance. C'est indéniable.
Pour changer un petit peu de sujet, mais pas totalement. Toi, dans le cadre de ton travail, je sais que tu as créé un réseau de diversité cognitive chez Renault. Est-ce que tu peux rapidement nous le présenter ?
Alors oui, je tente à mon niveau de créer un réseau de la diversité cognitive chez Renault. Surtout que, bon, elle est bien présente de mon expérience des personnes que je croise tous les jours. Mais j'avoue, je suis comprimée de sa création. J'ai ouvert un Yammer interne en juillet dernier sur un coup d'enthousiasme et d'optimisme. Je publie des informations sur le sujet pour éveiller les esprits. J'essaie de le faire régulièrement. Pour l'instant, je le fais seul. Et ça réagit doucement. Il y a une soixantaine de personnes qui suivent le Yammer. L'objectif pour aller plus loin, c'est de trouver des compagnons de voyage pour animer le sujet. Parce que ça demande de l'énergie et comme le secteur automobile est quelque peu secoué en ce moment, je dois gérer mon énergie aussi entre les valeurs que je porte et la réalité du terrain. Donc je reste optimiste et enthousiaste, mais je suis persuadée que la diversité cognitive amène des profils indispensables pour aborder les virages de la mobilité demain. Donc je pense que ça va apprendre, mais doucement mais sûrement.
Donc s'il y a des personnes de Renault qui écoutent et qui veulent devenir compagnon ou compagnonne de voyage sur ce sujet-là avec toi, qu'ils te contactent, j'en profite.
C'est ça, merci.
On arrive au bout de cet échange. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot pour conclure, quelque chose qu'on n'a pas évoqué et que tu souhaiterais dire ?
Je dirais seulement que j'aime la synchronicité qui nous a fait rencontrer. Et merci Mélodie pour cet échange qui me touche, parce que pour parler du TDAH, c'est justement révéler à des gens qui vont peut-être écouter et se reconnaître, de pouvoir faire un chemin vers le diagnostic et la prise en charge.
Merci, merci beaucoup pour tout cet échange, pour toutes ces informations aussi, c'était très riche. Donc je pense que les gens qui nous écoutent auront plein de choses à aller creuser. Et puis bah, moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau. We'll be right back.